Vous écoutez France Culture.
7h41.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Jusqu'alors cantonné au nord du Nigeria, vous l'avez entendu dans la revue de presse internationale, la secte Boko Haram vient de traverser les frontières. Ses premiers pas au Cameroun soulèvent des réactions et des appréhensions, autant à l'échelle régionale qu'internationale. Boko Haram, ce sont des villages entièrement détruits, des populations déplacées et un conflit qui se régionalise. L'insurrection de Boko Haram qui prône l'instauration d'un islamisme radical et qui s'associe aux idées d'Al-Qaïda et de l'État islamique a fait jusqu'à ce jour plus de 13 000 morts et au moins 1,5 million de déplacés au Nigeria, et ce depuis 2009. C'est dans ce contexte violent et complexe à comprendre et à décrypter, nos invités seront là pour ça, que se tient à Paris du 5 au 6 février, demain et après-demain, les 8e rencontres européennes d'analyse des sociétés politiques, avec au programme cette année genre et citoyenneté, l'occasion de parler d'Afrique sous un autre angle aussi, alors que les questions de genre et de sexualité nourrissent les stratégies autoritaires en Afrique et ailleurs, pour ne pas citer la Russie au hasard. La politisation des questions LGBT, lesbiennes, gays, bis et trans joue désormais un rôle dans les questions internationales. Ainsi, nous nous interrogerons sur cette question des droits de l'homme en Afrique, un continent souvent montré du doigt comme un continent homophobe par excellence. Mais avant cela, recentrons-nous donc sur l'actualité, sur ce continent marqué par les conflits et donc la montée en puissance de Boko Haram, avec notamment une question: quel sera l'impact régional de la progression de cette secte au-delà des frontières nigériane, et la communauté internationale se montre-t-elle assez réactive? Pour répondre à ces questions, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alice Com. Bonjour.
Bonjour.
Je devrais vous appeler Mom ou Maman?
Oui, Mom ou Maman, c'est comme ça qu'on m'appelle dans mon quotidien.
Parce que vous êtes avocate camerounaise, première femme africaine inscrite au barreau du Cameroun depuis 1969, alors qu'à l'époque le métier d'avocate était réservé qu'aux hommes, et je crois aux hommes blancs. Vous avez de très nombreux prix, le prix du New Yorker en 2012, mais aussi le prix des droits de l'homme de la section allemande d'Amnesty International, là, juste en 2014. Fondatrice de l'association À Défaut, de défense des homosexuels au Cameroun, et bien d'autres choses encore. Vous êtes aussi en compagnie de Joseph Tonda, bonjour.
Bonjour.
Professeur de sociologie et d'anthropologie, vous enseignez, vous, à l'université Omar Bongo de Libreville, auteur de nombreux livres, dont La guérison divine en Afrique centrale, sorti en 2002 chez Cartala, ou encore Le souverain moderne, le corps du pouvoir en Afrique centrale, Congo et Gabon, publié en 2005. Nous mettrons votre bibliographie plus complète, bien sûr, sur le site des France Culture, à la page des matins. Et puis Jean-François Bayard, bonjour. Politologue, directeur de recherche au CNRS, cofondateur de la revue politique africaine, fondateur aussi des Critiques internationales.
Oui.
Et puis donc, une des chevilles ouvrières de ces rencontres européennes. Vous nous dites deux mots sur ces rencontres dont il sera question bien sûr aujourd'hui, mais genre et citoyenneté.
Donc le réseau européen d'analyse des sociétés politiques, c'est un réseau extrêmement informel, européen, comme son nom l'indique. C'est un peu l'Europe sans Bruxelles. On travaille de manière transnationale, transinstitutionnelle, transdisciplinaire. Il y a des anthropologues, des politistes. Et chaque année, en particulier, nous nous réunissons à Paris avec l'appui de l'Agence française de développement. C'est important parce que financièrement c'est un concours très très précieux. Et cette année donc nous traitons de genre et citoyenneté, et même peut-être plus précisément de genre, pratiques sexuelles et définition de la citoyenneté, non seulement en Afrique mais dans une perspective comparative, parce que l'Afrique fait partie de l'universalité du politique.
Voilà, et vous m'avez dit entre autres, pour préparer cette émission, Alice Cobb, que la question notamment LGBT est entièrement partie intégrante de la question des droits de l'homme, ou vice-versa, que désormais on ne peut pas évoquer l'un sans évoquer l'autre. Mais peut-être je voudrais profiter de l'avocate camerounaise que vous êtes, Alice Com, pour nous aider à comprendre ce qui se passe, ce que vous en savez, vous évidemment, avec Boko Haram, qui mène désormais des incursions dans votre pays, au Cameroun. Comment appréhendez-vous cela? Et au fond, vous nous diriez, vous nous donneriez comme définition de Boko Haram, quelle définition justement, Alice Com?
Très difficile, c'est nébuleuse, comme on l'appelle couramment chez nous, au Boko Haram, qui sait. Au départ, on nous a dit, le président de la République du Cameroun a annoncé sa déclaration de guerre contre Boko Haram, ici même sur le sol parisien, et quand il est rentré au pays, on s'est dit, bon, ben, on est en état de guerre, Boko Haram c'était qui, on ne sait pas. On pensait que c'était une organisation nigériane qui avait comme base arrière le Cameroun. Et puis, quelques temps plus tard, on a voulu nous faire croire que Boko Haram, c'était une... En fait, c'était des Camerounais. C'était une rébellion camerounaise avec des gens du Nord contre les gens du Sud. Et on a même enregistré quelques appuis, quelques soutiens par des appels de certaines régions ou certains départements du Cameroun en faveur de... pour le président de la République, afin qu'il puisse mater cette rébellion, comme il l'a fait pour le maquis, comme il l'a fait pour les villes mortes à l'époque, et comme il l'a fait pour les émeutes de la faim au Cameroun. Et là, on a commencé à s'inquiéter beaucoup, parce que si Boko Haram n'est pas cette nébuleuse terroriste dont on nous a parlé et à laquelle on a déclaré la guerre, et que c'est une lutte interne, méfiance. Ça a suscité beaucoup, beaucoup de problèmes au Cameroun, hein, parce que on s'est rendu compte qu'on voulait peut-être profiter de cette histoire de Boko Haram pour régler des comptes politiques dans un contexte de fin de règne.
Alors, d'accord, mais il n'empêche que Boko Haram existe bien quand même,
mais Alice, oui, mais qui sait,
comme mouvement... défini comme mouvement salafiste djihadiste du nord-est du Nigeria, qui veut appliquer la charia là où il passe, et notamment peut-être l'étendre, comme le disait dans la revue de presse internationale Thomas Cluzel, à l'ensemble du Sahel. Ça, Boko Haram existe bien ou n'existe pas du tout?
Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je sais que tous les jours, dans les médias, on nous annonce que Boko Haram a incendié des villages, il a enlevé des gens.
1,5 million de personnes déplacées au Nigeria, 13 000 morts.
Oui.
Jean-François Bayard.
Je pense que la question d'Alice Nkom est très intéressante, parce qu'au fond, que sait-on de Boko Haram? Bon, à l'origine, effectivement, une secte millénariste, telle qu'il en a à peu près toujours, en tout cas depuis très longtemps.
Qui voudrait dire le livre interdit, selon certaines sources.
Boko Haram, c'est l'école du blanc proscrite. Voilà. Si on fait un très mauvais jeu de mots, on peut passer de Boko Haram à Boko Haram. Ouais. Beaucoup de choses sont illicites. Bon. L'alcool, les relations entre hommes et femmes, etc. Donc, il y a effectivement, nous avons à l'origine un mouvement salafiste, fondamentaliste musulman, très rigoriste sur le plan des droits de l'homme, mais il y a une dimension sociale. Boko Haram, dans le nord du Nigeria, c'est aussi l'expression politico-religieuse de l'énorme masse surexploitée, réprimée par l'État nigérian et par la classe dominante, elle aussi musulmane, du nord du Nigeria, beaucoup d'anciens captifs, d'anciens esclaves. C'est ça la base sociale de Boko Haram. Ensuite, il y a eu la répression sauvage de la part de l'État du Nigeria, avec en public l'exécution extrajudiciaire dans la cour du commissariat où il avait été arrêté, du fondateur, certes assez excité religieusement, de cette secte. Et la dérive criminelle de Boko Haram commence à ce moment-là. Quand vous parliez de 13 000 déplacés, par exemple, ou de 13 000 victimes, pardonnez-moi, et de centaines de milliers de déplacés, qui déplace qui dans cette histoire?
5 millions de déplacés.
Oui, mais qui déplace qui dans cette histoire? Et il faudrait quand même parler de la répression sauvage, indiscriminée de la part de l'armée nigériane, hein, qui est beaucoup plus habile à tuer ses concitoyens qu'à poursuivre Boko Haram et à réduire militairement Boko Haram. Donc il y a une très très grande inconnue, même à l'intérieur des frontières nigérianes. Et ensuite, je crois qu'on ne peut pas traiter la question de Boko Haram dans le nord du Cameroun si l'on fait abstraction de ces deux ou trois décennies de contrebande, de circulation d'armes, de désertification du nord du Cameroun par le pouvoir central, et également bien entendu de tout un business des otages, parce qu'effectivement il y a eu un certain nombre de prises d'otages au Cameroun, notamment de ressortissants français,
bien sûr.
Mais est-ce que ce sont véritablement des agents de Boko Haram qui l'ont fait? Est-ce que ce sont des criminels, ce qu'on appelle souvent des coupeurs de route dans le nord du Cameroun, qui ont pris des otages et qui les ont revendus à Boko Haram, etc., etc. Donc beaucoup de questions.
Joseph Tonda.
Oui, je voudrais dire que ce qui est intéressant du point de vue de l'analyse sociologique, anthropologique des sociétés d'Afrique centrale aujourd'hui, c'est le caractère transfrontalier du phénomène Boko Haram. Vous savez, aujourd'hui, le Tchad est impliqué dans la guerre contre Boko Haram, et il y a plus d'une décennie, le même Tchad s'était impliqué dans la guerre civile au Congo-Brazzaville. L'Angola, par exemple, aussi, était impliqué. Et au Congo, RDC, République démocratique du Congo, l'Angola s'était impliquée. Et aujourd'hui, on se rend compte que le caractère transnational de cette nébuleuse Boko Haram va de pair avec les interventions transfrontalière des armées africaines d'Afrique centrale.
Des rumeurs persistantes font du Tchad, par exemple, des pourvoyeurs d'armes de Boko Haram. Est-ce que on sait que là, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Bénin aussi avaient convenu d'établir une force de 3000 hommes en vue de lutter contre Boko Haram. Mais par exemple, cette force-là n'est toujours pas opérationnelle. Comment vous expliquez cela, Joseph Tonda?
Ben, on espère bien qu'elle va être opérationnelle. Mais pour le moment, ce que je constate, c'est que du point de vue du leadership politique reposant sur l'usage des armes à l'extérieur des frontières, le Tchad s'impose comme ce leader-là. Et hier, il y a quelques années déjà, c'était l'Angola, par exemple, en République démocratique du Congo. Il faut signaler aussi la relation que l'on peut faire entre ces interventions et les matières premières, les richesses qui se trouvent en République démocratique du Congo. Et j'imagine...
Vous voulez dire, on va faire un petit baromètre, celui qui est le plus riche sera le plus aidé, grosso modo, comme ça se fait souvent. C'est ça que vous voulez dire, Jacques Tondo ?
Il y a cela aussi, il y a aussi que, bon, j'aide pour que je puisse aussi en tirer profit sur le plan...
Et ça, la stratégie d'Idriss Déby est très claire. Idriss Déby joue les utilités au Mali, aujourd'hui dans le nord du Cameroun, pour lutter contre Boko Haram, et de ce fait, on ne lui pose plus aucune question sur la manière dont il a réprimé dans le sang son opposition démocratique, alors même que celle-ci avait bénéficié de l'onction européenne et française. Et le grand risque que soulevait Alison Combe, c'est qu'aujourd'hui, le président Biya utilise cette menace de Boko Haram pour faire passer cette législation liberticide au nom de la lutte antiterroriste et régler un certain nombre de comptes politiques dans un contexte de succession présidentielle qui est très préoccupant.
Alice Combe, oui.
Oui, c'est tout à fait ça, Jean-François a raison. Nous sommes très inquiets au Cameroun en ce qui concerne cette instrumentalisation d'un Boko Haram dont on nous donne la nette impression qu'eux-mêmes ne savent pas contre qui on a déclaré la guerre.
Alors, cela dit, en attendant, des dizaines de milliers de réfugiés, tout de même, par exemple, arrivent au nord du Cameroun, dans le camp de Minawao, à l'IFCOM, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, 4 à 5 000 nouvelles personnes arrivent dans l'extrême nord du Cameroun toutes les semaines, et parmi elles, environ 70% de femmes et d'enfants.
Oh, c'est vraiment le drame là-dedans, parce que déjà, avant qu'on ne déclare la guerre à Boko Haram, la situation des habitants du nord n'était pas très très reluisante. Hein. C'est une région qu'on a complètement abandonnée, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est une région extrêmement importante. C'est le vivier électoral du président Biya, hein. Mais il n'y a rien là-bas. Hein. Même les parcs d'animaux qu'on allait visiter, Waza, etc. Il n'y a plus un éléphant, on les tue tous les jours d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. On a complètement abandonné le Nord Cameroun et j'ai bien peur aujourd'hui qu'on ait terminé de faire le lit de cette guerre, ce conservatisme, ces extrémistes qui viennent de partout et dont on ne nous dit pas grand-chose.
Est-ce que vous attendez quelque chose de la communauté internationale, hein, comme on le dit souvent? Comment jugez-vous notamment les réactions? John Kerry a affirmé que les États-Unis étaient prêts à accroître leur aide à leurs partenaires nigérians. Nous sommes prêts à faire plus, a-t-il déclaré il y a quelques jours. Et notamment, il y a eu des marches parisiennes, un archevêque nigérian a appelé au lendemain d'une marche parisienne, et il a appelé la communauté internationale à apporter au Nigeria du soutien et demander à la France évidemment aussi qu'elle s'en mêle. Vous pensez que c'est encore une fois ou un risque ou une chance que la communauté internationale intervienne, Jean-François Bayard ?
Le problème est de savoir si l'internationalisation ou la régionalisation sous la houlette du leadership militaire tchadien ne va pas aggraver les choses plutôt que de contribuer à les pacifier. Hein, parce qu'au fond, même une intervention qui est relativement claire comme celle de la France au Mali, cette opération militaire a grosso modo plutôt réussi. Elle était certainement très nécessaire, hein, pour toute une série de raisons. Mais on voit bien que les Maliens, jusqu'à présent, n'apportent aucune réponse politique. Et et c'est quand même le fond du problème, à la question du Nord. De la même manière, le Nigeria est incapable d'apporter une réponse politique et sociale à ce problème de Boko Haram. Mmh. C'est ça le véritable enjeu. Et les étrangers sont complètement impuissants par rapport à cela. Les Américains sont des alliés traditionnels du Nigeria, mais si le Nigeria est incapable de céder lui-même, si le Nigeria est incapable de traiter politiquement et pacifiquement le sort de sa population dans le Nord, l'intervention internationale ne fera qu'aggraver le problème. Hein, bombardement, déplacement de réfugiés, abus des forces armées sur le terrain, on connaît la chanson.
Est-ce que ça veut dire, du coup, Joseph Tonda et Alice Cobb, que les pays du Maghreb sont appelés à devenir de nouvelles terres d'accueil, et voire l'Europe, pour tous les migrants qui fuient en ce moment Boko Haram et au Cameroun, au Nigeria, au Tchad?
Je crains que les réponses aux solutions, disons les réponses aux problèmes sociaux qui se posent aux populations et qui reposent, c'est ces réponses qui reposent sur l'usage de la force militaire, sur l'instrumentalisation des sentiments religieux, de la foi religieuse, ces réponses-là entraînent, je crains, ces exodes, ces déplacements de population et qui pourraient éventuellement penser à s'orienter vers les pays du Maghreb et pourquoi pas l'Occident.
Ouais. Alice Cobb, cela pose évidemment du coup, et nous l'évoquerons en deuxième partie, et c'est le sujet notamment du colloque, des rencontres qui nous intéressent, cela pose évidemment du coup à nouveau tous les problèmes, quel que soit le pays où l'on se trouve, des droits de l'homme et qui plus est des droits de ceux qui en ont le moins, homosexuels, lesbiennes, trans, etc.
Oui, mais le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que nous allons vraiment vers l'usage de la force pour en finir avec les droits de l'homme, parce que au moment où intervient au Cameroun la loi sur la lutte à mener contre le terrorisme, soi-disant, qui est une loi du mois de décembre, elle est très récente, on l'a appelée « est puni de la peine de mort celui qui marche ». Enfin, c'est une loi vraiment qui nous a beaucoup inquiétés et qui continue à poser beaucoup de problèmes, parce que déjà, au moment où elle intervient, que sont les droits de l'homme au Cameroun? Pas grand chose. Vous avez des partis politiques, vous avez des associations légalement constituées qui ne peuvent pas marcher, même pas pour la bonne cause. Quand on a enlevé les 200 filles de l'opération Bring Back Our Girl, on n'avait pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de marcher. Ça vous coûtait déjà la prison. Moi, j'ai plaidé pour beaucoup d'hommes politiques qui ont organisé des marches tout à fait en faveur de la démocratie, hein, et qui ont été réprimés, qui ont été, on a condamné les gens pour ça.